On se souvient tous des campagnes de participation hein, qui incitaient à faire de l'exercice. Et parallèlement à ça, ben, l'obésité a triplé au cours des 25 dernières années. Donc, c'est pas efficace.
La directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, Suzy Pellerin, que vous venez d'entendre, qui s'inquiète donc du peu de progrès réalisé au Québec dans la lutte contre l'obésité, en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation. En fait, depuis 20 ans, les taux d'obésité ont augmenté de façon significative au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour réclamer une approche plus coercitive, plus musclée, un peu à l'image de ce qui a été fait contre le tabac. On en parle avec Bruno Coulombe. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Jacques.
On pense à quel type de mesure exactement?
Ben, il y a plusieurs idées qui sont lancées. Une surtaxe sur les aliments gras ou sur les boissons sucrées. Obliger les restaurants à afficher l'information nutritionnelle sur les menus. Obliger même les manufacturiers à apposer des avertissements sur les produits. Le débat n'est pas nouveau en soi, mais il a été relancé il y a quelques semaines par l'Association médicale de l'Ontario, qui a réclamé une approche beaucoup plus musclée pour combattre la malbouffe, calquée en fait sur le modèle de la lutte contre le tabac.
Mm-hmm. Donc au Québec, je présume qu'il y a des groupes qui croient justement que la prévention a atteint ses limites, là, pour qu'on commence à parler de tout ça.
Ouais, ben disons que les statistiques semblent indiquer que la lutte contre l'obésité fait un peu de surplace, particulièrement chez les jeunes. Le mois dernier, l'Institut de la statistique du Québec a dévoilé une étude qui indique que la proportion de jeunes qui affichent un surplus de poids dépasse maintenant les 20 %. L'obésité touche 7 % des adolescents. Le Canada aussi fait piètre figure avec un taux de surpoids de plus de 25 % chez les enfants, 1 sur 4. La Coalition québécoise sur la problématique du poids croit donc que la cigarette, effectivement, pourrait servir d'inspiration dans la lutte contre la malbouffe, particulièrement dans le cas des boissons sucrées. On écoute sa directrice, Suzy Pellerin.
On peut penser à la composition du produit, par exemple. Ensuite, au niveau de la distribution aussi, on a vu, bon, les étalages qui sont cachés. On n'ira peut-être pas jusque-là en ce qui a trait à la malbouffe. Par contre, on pourrait limiter le réseau de distribution pour les boissons énergisantes. Ensuite, bon, toutes les mesures fiscales. Donc, il y a eu des taxes qui ont été imposées sur le tabac. On espère un jour qu'on aura également une taxe sur les boissons sucrées.
Suzy Pellerin, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Et les médecins québécois, Bruno, est-ce qu'ils sont en faveur d'une approche plus réglementaire contre la malbouffe, comme le suggèrent leurs collègues ontariens?
Ben, de l'aveu même de la présidente de l'Association médicale du Québec, les médecins sont un peu décontenancés par le phénomène de l'obésité, ne savent pas toujours quoi dire à un patient qui souffre de surpoids. C'est une situation qui est souvent délicate. Les médecins n'hésitent pas à parler d'épidémie et pensent que la prévention, effectivement, est inadéquate. La docteure Ruth Van der Stelt félicite l'Association médicale ontarienne pour sa sortie fracassante et pense que au Québec aussi, là, il est temps d'attaquer le problème de front pour protéger les gens d'eux-mêmes, en quelque sorte. Elle appuie, entre autres, l'idée d'obliger les restaurants à afficher l'information nutritionnelle sur le menu pour aider les gens à faire des choix plus éclairés.
Par exemple, un régime normal en sel, ce serait à peu près 3000 mg par jour. Si tu as, par exemple, de l'hypertension, une maladie cardiaque ou d'autres maladies, il faut consommer à peu près 2000 mg. Or, si vous mangez, par exemple, dans un restaurant, un repas typique de souper, ça pourrait vous donner plus que 2000 mg déjà. Si les gens le savaient, peut-être qu'ils diraient, oups, OK, moi je te fais de la haute pression, il faudrait pas que je fasse ça.
La présidente de l'Association médicale du Québec, la docteure Ruth Van der Stelt. Bruno, le gouvernement a-t-il envoyé des signes qui laissent croire, justement, qu'il serait prêt à légiférer pour encadrer davantage la consommation de la malbouffe?
Ben, au ministère de la Santé et des Services sociaux, on est très prudent quant aux moyens qui pourraient être mis de l'avant. En 2006, le gouvernement avait lancé un plan d'action sur 6 ans pour promouvoir de saines habitudes de vie, prévenir aussi les problèmes reliés au poids. Sa coordonnatrice, Lynn Mongeau, en fait un bilan très positif, même si on n'a pas réussi à inverser les tendances. La solution réside, selon elle, dans un amalgame de solutions qui pourraient en effet inclure une réglementation plus serrée, mais ça ne sera pas suffisant. Lynn Mongeau.
Les actions plus robustes, c'est une palette d'actions auxquelles il faut peut-être recourir, mais ça prend plusieurs ingrédients. C'est très, très important qu'il y ait d'abord un son de cloche du gouvernement sur l'importance de la prévention. Et Mme Marois, qui vient d'annoncer une politique nationale de prévention et de saines habitudes de vie, c'est un signal fort. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va aller plus loin dans les actions qui seront proposées. Maintenant, ces actions-là ne sont pas choisies encore.
La chercheure Lynn Mongeau, elle est coordonnatrice du plan d'action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids pour les années 2006 à 2012. Bruno, on a beau vouloir légiférer contre l'obésité et la consommation de malbouffe, est-ce qu'on sait si ça fonctionne?
Ben voilà, c'est que ça n'a pas encore été démontré hors de tout doute, même que les recherches d'un professeur au département des sciences de la consommation à l'Université du Wisconsin aux États-Unis ont montré que les consommateurs qui ont un indice de masse corporelle plus élevé seraient les moins sensibles au prix des aliments. La professeure Gail Ellen West, qui enseigne au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l'Université Laval, abonde dans le même sens. Selon elle, il faudrait que la taxe soit très élevée pour changer les comportements.
Il y a beaucoup de consommateurs, évidemment, qui rebutent pas mal tout message qui semble vouloir dire de ne jamais vous gâter, de ne jamais vous faire plaisir, de prendre des mesures assez radicales dans votre alimentation pour ne pas avoir rien qui est gras ou rien qui est sucré. Puis c'est assez radical, puis les consommateurs aiment pas ça.
Gail Ellen West, qui est professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval.
Dans une note à paraître demain, l'Institut économique de Montréal affirme aussi que la taxation des boissons sucrées, par exemple, n'est pas la solution pour combattre l'obésité. On y dit qu'une taxe aurait une portée beaucoup trop restreinte pour être efficace, étant donné que d'autres produits tout aussi caloriques ne seraient pas taxés. Il y a aussi l'industrie de la restauration rapide au Québec qui, on sans doute, s'oppose à une réglementation. Par contre, on dit qu'on veut faire partie de la solution, qu'on ne veut pas toujours être considéré comme le problème, mais on suggère que le gouvernement y aille avec une approche volontaire plutôt que coercitive.
À suivre. Merci beaucoup, Bruno Coulombe.
Je vous en prie.